Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait, écrit Jean Cocteau. Eh bien, Résonance vous invite à aller à la rencontre de ceux et de celles qui, au quotidien, travaillent, inventent, initient des aventures humaines et artistiques, convaincus que l'art, la création, les pratiques artistiques peuvent être le moteur de la rencontre, du faire ensemble, du vivre ensemble. Au sommaire de cette émission, deux invités qui nous permettront de mettre en lumière plus particulièrement l'Italie. Alma Azani, que nous entendrons en direct par téléphone depuis la ville de Castelnuovo nei Monti, située dans la région Emilia-Romagna. Alma Azani est l'une de nos correspondantes en Italie et Alma nous donnera des nouvelles de l'association Facce qui accompagne des jeunes en situation de handicap psychique. Puis nous rejoindrons également par téléphone Alessandro Solbiati, compositeur italien résident à Milano, qui a eu notamment le 15 avril dernier l'une de ses œuvres créées à Chalon-sur-Saône par l'ensemble Benjamin Britten. Mais pour l'instant, voici Parole d'auteur, Parole de compositeur avec Josie Josserand.
Souvent, l'engagement que les hommes mettent dans des activités qui semblent tout à fait gratuites, sans autre but que le divertissement ou la satisfaction de résoudre un problème difficile, se révèle comme essentiel dans un domaine que personne n'avait prévu, avec des conséquences qui peuvent aller loin. Cela est vrai pour la poésie et pour l'art, de même que pour la science et pour la technologie. Italo Calvino.
Vous êtes toujours sur Tropic FM avec Résonance. Après donc les paroles que Josie Josserand nous a fait partager d'Italo Calvino, né en 1923 et mort en 1985, écrivain et essayiste italien, nous avons entendu deux œuvres de deux compositeurs, deux générations différentes italiens. Un premier mouvement avec le Tre Movimento ou trois mouvements de Federico Gardella, composé en 2007 et interprété par l'Orchestra I Pomeriggi Musicali, direction Carlo Boccadoro, et à la mandoline, puisqu'il s'agissait justement de mettre en avant ce merveilleux instrument italien. Il était interprété par Avi Avital. Et ensuite, un autre compositeur important, mais qui a marqué aussi une grande partie du début du XXe siècle, avec Luigi Dalla Piccola. Et nous avons entendu le premier chœur d'un ensemble intitulé Duo Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane, un très beau chœur qui s'inspire aussi de textes plutôt de l'époque baroque. Et celui-ci est interprété par le New London Chamber Choir sous la direction de James Wood. Et maintenant, nous allons rejoindre, comme promis, Alma Zani. Buongiorno, Alma.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association Facce, qui dans cette très belle région montagneuse qui entoure Castelnuovo, organise l'accompagnement, le suivi de personnes en situation de handicap psychique et gère différents établissements répartis dans cette région montagneuse. Alors Facce, bien sûr, développe un certain nombre de services d'accompagnement pour tous ces jeunes et ces adultes, mais également propose différentes propositions d'ateliers, de pratiques artistiques à l'intention de ces personnes ayant un handicap psychique. Alors Alma, peut-être, qui fait partie de nos correspondantes régulières, justement en Italie, peut-être dans un premier temps, comment se porte finalement l'association Facce aujourd'hui ?
Nous sommes... Je vous demande d'excuser mon français... Vraiment mauvais.
Ça va bien, Alma. Pas de souci, l'accent est très plaisant.
À cette période, notre association en plus des activités.
Oui.
Était très active dans les théâtres. Au mois de décembre dernier, oui, nous avons reproduit avec succès les spectacles de théâtre Reality. C'était une histoire de... Provini, en français, comment ça dit
de la province.
Quand on choisit, oui, les personnes pour un programme de reality. Grande Fratello.
Ah oui, pour des programmes, par exemple, comme la télévision, de télé-réalité, des choses comme ça.
Oui.
Tout à fait.
Pardon.
L'émission est internationale, donc pas de souci.
Si. C'est une histoire de provinage, se dit en français,
Providence.
Pour choisir les jeunes qui entrent dans ces programmes. L'histoire, c'était ici.
D'accord. Et
nous avons répliqué les spectacles à Rubiera,
oui,
dans la province de Reggio Emilia, et à Castelnuovo Monti. Et c'est Carnaval,
oui,
c'est bien français.
Oui, tout à fait.
Le Mardi Gras.
Oui, le Mardi Gras,
absolument. Nous avons répliqué les mêmes spectacles pour l'école primaire, élémentaire. Per noi è elementare.
Tout à fait.
Et les petits enfants, c'était très, très enthousiastes de ces spectacles.
Oui.
Ces spectacles sont très divertissants et jouent beaucoup sur l'improvisation. Et c'est un enseignement.
Oui.
Et c'est une vôtre... Enseignement de la percussion de très fort, de travailler sur l'improvisation.
Sur l'improvisation. Et comment s'appelle donc la personne qui a fait travailler ces jeunes justement sur le point de vue théâtral?
Nous avons deux enseignantes,
oui,
deux professeurs. Matteo Carnevali.
Oui.
Francesca Bianchi.
Voilà, Francesca Bianchi que j'avais rencontrée justement lors de notre passage aussi à Castelnuovo.
On fait ces spectacles très très divertissants. Et dans ces spectacles, notre jeune démontre être maître de la scène.
Oui.
Et surtout, il c'est jouer et tous les fois sont différents que la dernière.
Et du coup, ce travail qui aboutit donc en décembre dernier, il a fallu combien de temps de travail dans les ateliers pour préparer ce spectacle?
Et le spectacle, c'était pour le festival du théâtre qui était à Castelnuovo jusqu'à 2013 pour les écoles. Il était un théâtre lab. Et il avait beaucoup d'écoles aussi d'Hollande, aussi France. Et notre jeune était la compagnie
italienne,
locale.
Voilà, italienne locale, invitée dans le cadre de ce festival.
Oui.
Tout à fait, Alma. Et peut-être dans ce moment théâtral donc présenté dans ce cadre de ce festival, combien étaient-ils de jeunes justement engagés dans cette action théâtrale?
Ils sont tous les garçons des laboratoires de théâtre, que c'est une de notre activité. Et pour l'extra time, et aussi comme musique, aussi comme sport, aussi comme la piscine. Et nous avons ces deux laboratoires, théâtre et musique, toujours pour la... toutes les habiletés qui sont dans notre jeune disable. Et c'est un travail très beau pour quoi les jeunes peuvent être naturels.
Oui, ça révèle leur personnalité.
Yes, yes. Je suis à l'école d'anglais dans cette période.
Donc tout va bien.
Je comprends le langage.
Donc ces jeunes, voilà, en s'engageant aussi dans ce travail théâtral, petit à petit découvrent leur identité et affirment vraiment leur propre identité à travers justement ce spectacle.
Yes, oui, et c'est merci à vous pour ces réalisations d'aller rencontrer l'improvisation et les habiletés de notre jeune.
C'est sûr que c'est un premier moment important, c'est-à-dire que du coup travailler et je pense que c'est peut-être en ce sens-là que la metteur en scène ou le comédien ont travaillé avec ces jeunes, c'est-à-dire de partir des potentialités des personnes présentes dans l'atelier. Et il est certain que l'improvisation, la création sont des entrées dans un premier temps qui sont assez importantes pour justement découvrir, observer à la fois les potentialités et puis permettre bien sûr aussi surtout à ces jeunes d'oser faire, d'oser dire justement, de prendre la parole et de s'investir à travers justement le fait théâtral justement.
Oui, et surtout ce travail donne la possibilité à tous les jeunes disables de travailler, aussi les jeunes qui sont assez graves, et tous ont la manière de leur habileté. Et surtout la chose meilleure, c'est que ces jeunes sont toujours contents de faire ce travail.
Et est-ce qu'ils étaient donc dans cette pièce théâtrale, dans ce moment théâtral, est-ce que elle mélangeait justement jeunes en situation de handicap et jeunes valides, ou c'était simplement le groupe simplement des jeunes en situation de handicap?
Non, nous avons dans les théâtres des jeunes filles volontaires, volontaires.
Oui, volontaires.
Qui restent avec nous et sont avec nous depuis 3 ans et très 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 braves et très actives et attentives. Attentive avec notre jeune. Et il se mélange, c'est dit.
Oui, tout à fait.
Très, très bien dans les groupes. Mais avant il avait un rôle important.
Oui.
Aujourd'hui, sont notre jeune disable à être les protagonistes.
C'est ça. Donc ils ont pris de l'assurance à leur côté et ils prennent de plus en plus leur place d'acteur, justement.
Oui.
Et ça, c'est important. Mais effectivement, ce mélange aussi me paraît également important et souhaitable, puisque du coup, ça fait que, au-delà des différences et surtout le fait d'associer valides et personnes en situation de handicap dans une pratique commune, il y a là quelque chose d'important et d'essentiel.
Oui. Absolument. Les tues importants aussi pour montrer à le public les potentialités de notre jeune disable et aussi la possibilité de l'intégration avec des jeunes sans handicap.
Tout à l'heure, vous évoquiez, Alma, que cette prestation aussi s'est déroulée dans le cadre d'un festival qui réunissait aussi des enfants de pays différents, de la Hollande et de la France et d'autres pays. Et est-ce que dans ces prestations effectuées par ces enfants, il y avait là aussi des enfants en situation de handicap et des enfants valides, ou ce n'était que des enfants valides?
Non, dans ces festivals, seulement notre groupe était avec des jeunes disables. Les autres, c'était tous écoles supérieures.
Supérieures, oui.
Supérieures, et pour un projet qui est très, très vieux.
Et qui est déjà vieux?
Vieux. Cette année 2014, elle s'est transférée à Novellara.
Dans une nouvelle ville.
Une nouvelle ville, toujours en province de Reggio Emilia.
D'accord.
Pour changer la place, et je passe aussi pour quelques désaccords avec la direction du théâtre, je ne sais pas. Et nous, cette année, ne sommes pas allés à ce festival. Pourquoi? C'était difficile l'organisation. Pour notre jeune.
Et on évoque le théâtre avec vous, Alma, mais aussi, bien sûr, Facce a aussi des ateliers musique. Où en sont les relations, justement, à la fois les projets, bien sûr, de l'atelier musique, mais également les relations avec le conservatoire, avec l'institution conservatoire de musique de Castelnuovo Reggio Emilia?
Sont très, très bonnes. Mm-hmm. Ce soir, nous avons les saggio final pour l'année dans les théâtres de Castelnuovo Monti avec tous les groupes de percussions et avec des nouvelles expérimentations avec des instruments nouveaux.
Oui.
Et c'est, nous avons des garçons en plus. Et c'est une bonne chose, parce qu'il signifie que c'est une activité très amée.
Et du coup, est-ce que justement, ayant maintenant depuis plusieurs années le conservatoire de Castelnuovo, qui est relié, hein, pour le rappeler à nos auditeurs, Castelnuovo se trouve à une trentaine de kilomètres, hein, un petit peu dans la montagne par rapport à Reggio Emilia, mais ces deux conservatoires sont rassemblés, hein, dans leur fonctionnement et sur un point de vue administratif. Est-ce que le conservatoire s'ouvre aussi à accueillir dans ses cours ou d'autres professeurs, vu la présence depuis quelques années de cet atelier accueillant donc des jeunes en situation de handicap psychique? Est-ce que le conservatoire lui aussi commence à accueillir d'autres personnes en situation de handicap dans ses cours?
Mais nous, notre jeune,
oui.
Il y a le projet de cominciare
une commission
de partir avec de nouveaux petits garçons.
De petits garçons, oui.
Avec l'institution, le service sanitaire local, pourquoi les petits n'ont pas des activités extra time,
oui.
Et ils ont capito.
Il va se mettre en place des ateliers pour eux dans ce cadre-là.
Oui, pourquoi ils finalement ont récepti l'importance.
Vous avez ressenti l'importance.
L'importance de ces choses pour tous les jeunes en difficulté. Et nous espérons, aujourd'hui, nous avons seulement encore les mois de mai,
oui.
Et pour terminer l'année scolastique.
Et ça, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour à la rentrée prochaine, à la rentrée scolaire prochaine.
Oui, nous pensons d'organiser quelque chose pour les prochains septembre, octobre, quand le conservatoire a la nouvelle année des cours.
Et ça veut dire, Alma, donc là on évoque Castelnuovo, mais est-ce qu'à votre avis, sur Reggio Emilia, qui est plutôt la ville-centre, et donc avec un conservatoire très important également, est-ce qu'à Reggio Emilia, là aussi le conservatoire fait des pas dans le fait d'accueillir un petit peu certains jeunes ou des petits ou des adolescents en situation de handicap?
Mais dans les conservatoires à Reggio Emilia, font de musique-thérapie.
Alors, sous la forme de musicothérapie, alors?
Oui, ce n'est pas notre objectif.
Objectif, oui, c'est une chose bien différente, effectivement.
Nous avons déjà parlé ensemble.
Absolument.
De ces problèmes. Et
donc, ça veut dire que c'est... ça veut dire que c'est un musicothérapeute qui intervient au conservatoire?
Oui.
D'accord.
Mais c'est trop médecine.
Oui, c'est une vision trop médicale ou trop de soins, effectivement,
oui.
Vis-à-vis de la personne.
Nous espérons que notre expérience
puisse être... apporter la réflexion et peut-être ouvrir les choses.
Peut changer quelque chose en cette direction.
Et peut-être encore une question, Alma. On vient d'évoquer donc les institutions musicales, le conservatoire de Reggio Emilia, celui de Castelnuovo, tout l'impact du travail théâtral mené par l'association Facce. Et peut-être serait-il intéressant de connaître aussi comment les autorités, c'est-à-dire les autorités communales, les autorités aussi régionales par rapport à Reggio Emilia, comment aussi se positionnent-ils dans cet accès à la culture finalement? Des jeunes en situation de handicap, est-ce qu'ils essayent de faire que les lieux de culture et de pratique culturelle aillent plus dans ce sens-là? Ils soutiennent-ils Facce aussi dans ces directions-là? Comment vous les sentez aujourd'hui dans ce rapport-là d'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap psychique?
Mais je pense que ici à Castelnuovo Monti, notre travail est beaucoup apprezzato, aimé,
reconnu, aimé,
respecté.
Oui.
Et nous sommes connus.
Connus.
Connus. Et estimati.
Estimé. Estimé, oui.
Estimé. Mm-hmm. Et, mais nous avons peu de
d'aide.
D'aide. Pourquoi avec cette situation de crise générale.
Générale qui est difficile.
C'est difficile. Mm. C'est difficile. Et cette année, nous avons eu moins d'entrées par les institutions.
Oui.
Et c'est difficile.
J'imagine. Aussi bien dans le fonctionnement sur les subventions au niveau du social, d'autant plus, on sait que le financement de la culture en Italie est vraiment quelque chose de très compliqué et très difficile aujourd'hui.
Oui. Mmh. Oui, et surtout en direction des handicaps. Il y a toujours l'idée,
oui,
l'idée médicale, des thérapies,
oui,
ces situations. Tu sais qui est plus joyeux, naturel, c'est...
Moins soutenu.
Moins soutenu. Mm. Aussi que dans l'Italie, la part artistique, c'est peu soutenu.
En tout cas, merci Alma pour ces nouvelles. Bien sûr, on aura le plaisir à nouveau de reprendre des nouvelles dans quelques temps, dans notre émission, parce que ça, c'est important de savoir ce qu'il se passe au-delà des Alpes. Mais on voit que Facci est toujours très active, qu'il se passe de belles choses. On l'a entendu sur le point de vue théâtral et musical très bientôt, donc dans les prochains jours aussi, ce soir, pour certains éléments de concert. Donc voilà, merci pour ces nouvelles. Bonjour aussi à toute l'équipe des jeunes que nous connaissions bien maintenant sur Castelnuovo et Reggio Emilia. Et puis de toute façon, à très 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 bientôt, Alma.
Je vous remercie et je vous dis qu'à Noël, nous avons tenu un marché de solidarité avec,
oui,
vous.
Pourquoi? Absolument.
Nous avons utilisé beaucoup de matériel que nous a envoyé Liliane.
Ah, c'est très
et
bien.
Nous avons fait beaucoup de publicité à les éticologrammes, même avec l'adresse internet.
Ah, ça c'est super.
C'est vous étiez toujours avec nous. Et nous espérons de continuer ces collaborations.
Tout à fait.
Et je vais vous remercier encore. Et salut, tu la compagnie des percussions, tu les artistes que nous avons connus dans cette année.
Eh bien, merci beaucoup Alma, le message leur sera transmis et on se rappelle très vite en tout cas. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.
Vous êtes bien toujours sur Tropic FM avec Résonance et nous venons d'entendre un extrait de la Sinfonia Seconda d'Alessandro Solbiati, composée en 2005 et interprétée par l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, placée sous la direction donc de Daniel Kafka. Et puis, bien sûr, comme convenu dans le sommaire de notre émission, nous avons en direct par téléphone justement Alessandro Solbiati. Bonjour Alessandro.
Bonjour Alain,
ça va bien. Je sais que le travail est dense et que vous allez être en répétition en peu de temps, mais du coup, l'émission est dans l'actualité et c'est très bien. une actualité riche, puisque il va y avoir justement donc une œuvre en création à Chalon-sur-Saône et une œuvre donc qui s'appelle L'Absente, hein, qui est une œuvre pour 12 voix, piano et percussion, et qui est une commande justement du chœur Benjamin Britten, dirigé par Nicole Corti, n'est-ce pas? Hein, voilà, c'est ça. Et pour le 30e anniversaire de cet ensemble, et l'ensemble donc Benjamin Britten, qui est un ensemble remarquable, hein, de voix de femmes, et cette création donc qui va avoir lieu à Chalon-sur-Saône, notamment avec deux musiciens excellents, Jean Geoffroy à la percussion et Willem Lachoumia, justement au piano. Alors, comment peut-être cette pièce, vous l'avez imaginée, Alessandro Solbiati?
C'est-à-dire c'est un peu une partie d'un projet, mais c'est-à-dire que le capitaine a décidé de fêter son 30e anniversaire avec un grand numéro de commandes à compositeurs. C'est-à-dire, mm-hmm. Je pense à la fin, il y aura 30 commandes. Ce soir, on va créer 8 pièces. Mm-hmm. Et pour donner une unité au projet, ils ont commandé un texte à une écrivaine, Florence Delay. Mm-hmm. C'est une académicienne de France. Et ça, je le dis tout de suite, parce que pour moi, c'est une condition très particulière de travailler sur un texte donné.
C'est ça.
j'adore travailler sur une instrumentation donnée. Mm-hmm. C'est-à-dire, je ne veux jamais choisir les instruments pour lesquels écrire, mais je suis un peu, comment dire, jalouse. Je peux dire, j'ai une sorte de jalousie normalement dans le choix du texte.
Oui, je comprends ça. Oui, parce que vous êtes très attaché justement au texte et à vraiment trouver l'adéquation entre le texte et la musique, oui. Hein, et l'imaginaire, oui, qui va en sortir.
Mais à la fin, j'ai fait un choix, c'est-à-dire le texte était un texte très long, trop long pour deux pièces qui devaient prendre 7-8 minutes. J'ai choisi seulement 4, je ne vais pas dire vers parce que ce n'est pas un texte poétique, mais 4 lignes, je pourrais dire. L'argument général, c'est les fleurs, ça s'appelle bouquet. Mm-hmm. Et alors, j'ai choisi 3 façons très différentes, non, 4 façons très différentes de considérer le jardin. Par exemple, on commence avec l'idée de jardin comme lieu de vie, de naissance de vie. Mm-hmm. Et par exemple, la troisième, c'est un par contre, dans le jardin d'hiver, et je vais être comme dire, blessé, sans vie. Alors, ça m'a donné la possibilité de donner une courbe formelle pour moi. C'est toujours très important d'avoir une sorte de narrativité à l'intérieur de la forme et donner des points de donner une forme générale avec une directionnalité. C'est et ça. Avec cette choix, j'ai pu faire ça.
Donc voilà, un travail donc là aussi pour combien de voix finalement? C'est 12 voix, hein, c'est ça, 12 voix réelles?
Ce sont 12 voix, oui, 12 mixtes, c'est-à-dire 3-3-3-3. Ils sont magnifiques, je veux dire que Nicole Corti a travaillé d'une façon superbe. Et après, Jean Geoffroy, c'était un ami depuis beaucoup de temps, c'est un magnifique pianiste. Et aussi Willem Lachoumia.
Et oui, c'est un magnifique pianiste.
Aucun problème de performance.
Ça, j'imagine beaucoup. Alors pour continuer aussi un petit peu dans l'actualité et avant de vous relâcher pour aller à cette répétition, je crois aussi que, alors là c'est plutôt un projet d'écriture qui n'est pas encore abouti, mais l'opéra c'est toujours quelque chose qui est une forme qui vous génère aussi pour vous une grande ambition, je dirais, hein, et une activité fréquente pour vous, et il y a un projet futur d'écriture, où je crois que vous êtes même dans ce travail d'écriture pour le théâtre communal de Bologne, et un opéra qui s'intitule ou qui va travailler autour de la notion du jaune, hein, hein, de sur un texte de Vassili Kandinsky. Alors, c'est quelque chose, c'est un nouvel opéra, quoi, hein, que vous êtes en train d'écrire.
Si, je dis très souvent, je suis arrivé jusqu'à mes 50 ans, maintenant j'ai 57 années,
oui,
en disant toujours, je ne ferai jamais du théâtre musical, et à la fin, la vie, c'est des surprises, et à la fin, je suis à mon troisième
opéra.
mais je dois dire que le premier projet, quand le théâtre de Trieste, en 2009, m'a demandé une opéra, j'ai tout de suite pensé à ce texte de Kandinsky, c'est... pour lequel on ne peut pas parler exactement d'opéra, il appelle ce texte composition scénique, il faudrait maintenant je vais expliquer un peu,
oui.
Mais j'ai eu des problèmes, pas seulement moi, les héritiers de Kandinsky avaient interdit, personne n'avait répondu à ma proposition d'utiliser de ce texte,
oui.
Mais Kandinsky est protégé jusqu'à la fin 2014 et j'ai eu la chance à la fin, au troisième essai d'opéra, de choisir cet expert, parce qu'en 2015, il sera libre de l'utilisation. Et là, j'ai dû faire une réflexion, parce que le deuxième opéra, qui pour moi, c'était la plus importante, c'était autour d'un texte d'énorme poids, je pense, pas seulement littéraire, mais je veux dire humain, spirituel, c'est la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski, de Frère Karamazov. Et là, j'avais eu la possibilité de mettre sur scène une arche narrative très fort, narrative, mais aussi au-delà de la narrativité, c'est-à-dire, c'est un argument d'énorme profondeur, du point de vue humain, de la relation avec la transcendance, etc. Et là, je sentis que je suis arrivé jusqu'aux limites pour moi de la narrativité, de l'évidence de la narrativité dans un opéra. Parce que j'ai un peu de peur d'exagérer dans l'évidence de l'action théâtrale. Et ici, c'est le contraire. C'est-à-dire, je sais pas, le texte de Kandinsky, c'est un sort de texte métathéâtral. C'est-à-dire, il a composé des compositions scéniques pour démontrer l'œuvre d'art totale, comme il appelle ça, c'est-à-dire l'œuvre d'art dans laquelle la lumière, le mouvement, la musique, tout ça va composer le geste théâtral. Et ce texte a une prélude, six scènes et un épilogue, mais il donne beaucoup d'indications de lumière, de mouvement de certains personnages assez mystérieuses, il y a des géants qui se mouvent sur la scène, etc. Mais le texte est très peu. Et alors, je dis une chose encore, car le texte était très peu, et c'était seulement la courbe dramatique, à être clair, mais vraiment avec un texte mystérieux et très petit. J'ai trouvé un essai de Kandinsky, magnifique, excès, dans lequel il parle de la courbe psychologique dans un artiste, pas seulement un musicien, un artiste, dans le moment de la création de l'opéra, c'est-à-dire les tensions personnelles, la sensation d'avoir perdu tout ça, le silence intérieur, et après, peu à peu, de nouveau, la tension vers la lumière créative, et à la fin, on arrive à l'opéra. Et ça, c'est exactement la même courbe narrative de l'énergie qu'il y a dans les songeons. Et moi, j'ai surposé les deux textes, le texte du songeon à ce texte, et comme ça, mon opéra devient la projection sur la scène du parcours spirituel, personnel, psychique, psychologique d'un artiste dans le moment de la création d'une opéra.
Ah, ça doit être un moment effectivement passionnant qui va avoir lieu justement donc dans ce théâtre de Bologne. Et puis effectivement ce sujet donc de Kandinsky et puis qui a beaucoup travaillé justement sur ces notions de couleurs et effectivement l'histoire, le récit de la sonorité jeune, hein, du jaune, les tribulations comme vous le disiez là d'un géant jaune et par ces duplications, multiplications, ces transformations spirituelles, voilà, il se fait absorber finalement aussi par la couleur, hein, il se bat et combat et puis il finit par fondre et se dissoudre, hein, finalement complètement dans la couleur jaune. Du coup, cet opéra va être réalisé avec la collaboration de quels artistes donc à Bologne?
L'orchestre du théâtre communal, c'est un grand orchestre, le chœur du théâtre. Il y a 5 personnages principaux. J'ai besoin de 2 chœurs, un petit chœur sur la scène, un grand chœur qui est dehors de la scène, mais doit être visible. Et je travaille beaucoup avec le metteur en scène, qui est Franco Ripa di Meana. Parce que là, la mise en scène est très importante parce que c'est vraiment un parcours dans la lumière. C'est un parcours un peu avec de l'abstraction, etc. Il faut trouver une unité entre musique, lumière, gestes, mouvements, qui est encore à trouver. Je suis à la moitié de la partition, mais c'est il faut ça. Faire. Il y a un spectacle dans lequel chaque élément va ensemble avec la même énergie, avec la même unité. Et c'est un sort de, je sais, c'est pas facile, mais il faut faire toucher des choses difficiles.
C'est un beau challenge, en tout cas. C'est un très beau challenge. Ouais. Et la date de création, Alessandro Solbiati, à Bologne?
La date exacte, je ne la connais pas encore, mais il sera le dernier jour de août. À la moitié, entre la fin de mai et le début de juin 2015.
Voilà, on va suivre attentivement ce travail, et puis on aura l'occasion à ce moment-là de le réévoquer à nouveau, si vous voulez bien, Alessandro Solbiati. On va vous laisser aller à votre répétition et à cette création.
Merci, entre 2 minutes ma pièce.
Bon, voilà, alors donc, bonne répétition, à très bientôt, et merci d'avoir été un de nos invités aujourd'hui dans Résonance. À très bientôt, Alessandro.
Merci, je te remercie. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur Tropic FM avec Résonance Contemporaine. Nous venions d'entendre, justement, après cette interview d'Alessandro Solbiati, une pièce pour six voix de femmes et piano intitulée Durissimo Silenzio, composée en 2009 sur un poème de Mario Luzzi. On a vu que l'actualité était très vive pour Alessandro Solbiati, création avec l'ensemble Benjamin Britten, écriture d'un nouvel opéra. Il fait partie de ces compositeurs italiens qui aujourd'hui sont joués de manière très importante au niveau européen et par de nombreux ensembles. Et on ne peut que le saluer car la musique d'Alessandro Solbiati mérite justement d'être connue et entendue et ses spectacles, bien sûr, être le plus vivement accueillis par l'ensemble un petit peu de tous les publics. Donc voilà pour Alessandro Solbiati et voici bien sûr pour cette émission d'aujourd'hui qui avait des airs d'Italie avec le beau temps qui nous entoure depuis quelques jours. L'Italie nous sent un petit peu plus proche. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Aujourd'hui, j'étais accompagné par Josie Josserand et Simon Deborne à la technique.
Une émission présentée par Alain Goudard.
Cette émission sera diffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, pour écouter votre radio préférée qu'est Radio Tropique, en direct ou en différé, podcaster et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropicfm.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. En espérant vous retrouver lors de notre prochaine émission. À très vite.